17h40, vous êtes à l'écoute de En profondeur et avec moi en studio, Marie-Ève de la patrie des Anonymes. Bonjour!
Bonjour Brad, comment vas-tu?
Ah ben là, ça va super bien. Je suis pas tout seul en studio. Ça va super bien. Puis écoute, t'as une belle liste de sujets à aborder aujourd'hui.
Quand même, oui. On va commencer d'ailleurs avec un spécial les jambons de l'immigration. Vous allez comprendre dans un instant. Le premier jambon en titre, c'est le champion du marketing identitaire douteux, François Legault.
Gros jambon.
De la CAQ, qui, on parle ces temps-ci beaucoup, là, depuis la venue de Trump aux États-Unis, de l'ère post-vérité. Eh bien, on peut dire que François Legault a les deux pieds bien ancré dans cette ère post-vérité. Je fais ici référence, en fait, à certaines affirmations qu'il a faites au Devoir, selon lesquelles le programme de regroupement familial serait un bar ouvert, c'est ça, ces mots, un bar ouvert sans conditions. Comme je le disais, il a fait ces affirmations-là au Devoir alors qu'il abordait son souhait de rapatrier au Québec le programme de regroupement familial qui relève actuellement du fédéral. Bon, il a vertement critiqué ce programme-là qui permet en moyenne à 10 000 personnes par année de rejoindre leur conjoint ou conjointe, un parent ou encore un enfant qui est au Québec, qui a été admis soit comme résident permanent ou comme citoyen. L'affirmation en question, je vais vous la lire textuellement parce que, mais j'essaierai pas quand même, je me suis dit je vais peut-être essayer d'imiter François Legault, mais je vais vous passer mes pitoyables imitations. Toujours est-il qu'il a dit ceci, « C'est rendu que ce sont plus juste les enfants puis les parents, ce sont les mononcles, les matantes, les cousins, ça rentre, puis zéro condition, puis la majorité parle pas français. » Voilà donc les affirmations de M. Legault. Mais l'affirmation de mon oncle Legault est fausse à plusieurs égards. Et puis, on va déconstruire un peu avec vous. Je vais déconstruire avec vous cette affirmation-là.
Ah oui, donc.
Parce que en cette ère, justement, de post-vérité, c'est important de déconstruire un peu les mensonges qu'on entend de la part de politiciens, politiciennes et faiseurs d'opinion. Donc, d'abord, pourquoi c'est faux? D'abord, les critères de sélection du programme de regroupement familial ne permettent pas, en fait, de parrainer oncle, tante ou cousin. Ça doit obligatoirement être une filiation directe, c'est-à-dire conjoint-conjointe, enfant ou parent. Entre 2011 et 2015, au Québec, 73 % du parrainage concernait les conjoints, conjointes ou partenaires de vie, OK? 14 % les parents et 5 % les enfants. Il y a effectivement une catégorie autre qui touche 7 % seulement des parrainages depuis 5 ans. Est-ce qu'on y retrouve des mononcles et des matantes? Non. En fait, cette catégorie autre, ce sont frères, sœurs, neveux, nièces ou petits-enfants qui sont orphelins soit de père ou de mère et qui sont âgés de moins de 18 ans.
Okay.
C'est ces gens-là qui rentrent dans la catégorie « autre ». La seule chance qu'un mononcle ou une matante se faufile dans le programme de regroupement familial, ce serait, bon, prenez là, tous les liens de filiation non directs, OK, possibles et imaginables, mais il faudrait que la personne, en fait, ait aucun répondant comme tel, que ce soit de lien direct ou indirect, qui possède la nationalité canadienne ou qui soit citoyen, citoyenne permanent. Donc, dans les faits, là, faut être pas mal seul au monde pour pas rentrer dans une, tu sais, pour se faufiler justement dans cette catégorie autre-là, tu sais, si jamais c'est pas un lien de filiation direct ou encore des enfants avec aucun répondant. Donc, on est vraiment loin du bar open, ici, là, dont parle mon oncle Legault. Une deuxième chose qui fait que son affirmation était fausse, c'est concernant le zéro condition. C'est vraiment totalement exagéré parce que, vraiment, le programme de parrainage et de regroupement familial est très, très restrictif.
Quand même très
là,
complexe.
Je vous ferai pas la liste de toutes les conditions parce qu'il y en a beaucoup, mm-hmm. mais je vais donc vous en nommer quelques-unes là, qui sont les plus importantes. Par exemple, la personne qui parraine doit s'engager à subvenir aux besoins de son conjoint ou de sa conjointe, pendant au moins 3 ans. Si la personne parrainée n'est pas un conjoint-conjointe, mais un enfant ou encore un parent, ben cette obligation-là est de 10 ans.
Tant
donc, il faut prouver, il faut aussi que la personne qui parraine prouve ses capacités financières et doit fournir okay. aussi des preuves de revenus, là, toutes les preuves de revenus des dernières années. Ça, c'est une des conditions. Une autre des conditions, c'est que une personne qui est arrivée ici par parrainage, qui serait arrivée ici par parrainage, elle doit attendre 5 ans avant de pouvoir, à son tour, parrainer un membre de sa famille.
Okay.
Ensuite, c'est impossible de d'être parrain ou parraine-marraine, disons, si vous êtes, par exemple, prestataire de l'aide sociale,
okay.
si vous avez fait une faillite récemment, si vous avez contrevenu aussi par le passé aux règles de parrainage de ce programme-là. Donc, une autre des conditions, par exemple, si une personne a été reconnue coupable de violence ou d'agression sexuelle envers une personne, un membre de sa famille, cette personne-là est interdite à vie, là, tu sais,
wow.
De devenir parrain ou marraine.
Fait qu'on s'éloigne vraiment du zéro condition. Là.
C'est vraiment... Puis ça, comme je vous dis, c'est que c'est pas exhaustif, là. C'est quelques-unes des conditions.
C'est les faits saillants.
Voilà. Et quant à savoir si la majorité des personnes qui arrivent ici par le biais du programme de parrainage, par le regroupement familial, quant à savoir si la majorité des personnes ne parlent pas français... C'est vrai, mais à une faible majorité, c'est 51,9% des personnes qui parlent pas français. Mais bon, même si le programme en fait de parrainage était ramené au Québec, c'est-à-dire qu'il était géré par le provincial au lieu du fédéral, ça veut pas dire que le gouvernement québécois pourrait imposer des critères sur la langue, parce que le programme, en fait, toute la base... L'idée en arrière du programme, justement, est basée sur une valeur universelle, OK?
Okay, ouais.
Qui est celle de l'importance de la famille dans la vie d'une personne, du lien familial et son côté positif sur le plan du développement humain. Puis en plus, c'est un peu une vérité de la palisse que, évidemment, ça facilite aussi l'intégration d'une personne dans son nouvel environnement
ouais.
lorsqu'elle est entourée de membres de sa famille. Donc, si on appliquait... ce que mon oncle Gaud dit, qu'est-ce qu'on ferait avec un enfant qui parle pas français? C'est quoi, un enfant de 3 ans, 5 ans qui parle pas français, c'est quoi, on va le laisser séparé de ses parents dans un
ouais.
pays quelconque? Donc, tout ça pour dire que mon oncle Jambon Legault a tout faux. C'est même dangereux de faire des affirmations comme ça parce que ça trompe, ça donne vraiment une fausse image des programmes
ouais.
dont peuvent bénéficier des personnes qui désirent venir s'établir au Québec. Donc ça, c'était mon prix Jambon numéro 1.
Fantastique. Mérité.
Mon prix Jambon numéro 2. Je vais vous faire une petite mise en contexte. Toujours au devoir. Le devoir, quand même, ils nous apprennent. Il y a beaucoup de nouvelles qui passent souvent sous le radar, des fois, qui se retrouvent dans le devoir. Mais au début janvier, on apprenait que, après avoir recruté des centaines de machinistes, mécaniciens, soudeurs en Amérique centrale, il y a un entrepreneur québécois qui s'apprête à former des orphelines du Nicaragua. Dans le but de les faire venir au Québec comme aide familiale.
OK.
Donc, sous un vernis un peu humanitaire, là, si on veut, se cache, en fait, vous allez le voir, une soif de gros cash. Et l'entreprise en question a tellement bien choisi son nom, c'est du novlangue, en fait, pour ceux qui connaissent, qui ont lu Orwell 1984. L'entreprise en question se nomme Travailleurs sans frontières. C'est-tu pas assez beau? En fait, derrière ce vernis-là, c'est surtout l'exploitation qui pourrait ne pas avoir de limite. Et je vous explique. En fait, ce monsieur-là, qui s'appelle Luc Plamondon, à ne pas confondre avec un autre...
L'écrivain, ouais.
Oui, ben, je pense que c'est un impresario aussi. C'est un agent d'artiste et écrivain aussi, en tout cas. Il vise le monsieur en question, Luc Plamondon, avec cette initiative-là, vise principalement les soins à domicile, hein, parce que de son avis, c'est pas juste son avis, on le sait, là, mais les CHSLD sont pleins et les gens restent à la maison, donc on a besoin de personnes parce qu'il manque de ressources pour assurer les soins à domicile. Donc, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il profite du désengagement de l'État pour faire de l'argent en participant à la privatisation des services de maintien à domicile. C'est pas très... c'est pas nouveau, il est pas le seul et c'est pas le dernier. Je vous parlais aussi d'humanitaire parce que M. Plamondon, il présente ses recrues, qui recrutent d'ailleurs à partir de l'âge de 16 ans. Son but, c'est de les former, si on veut, pendant qu'elles sont dans les orphelinats à partir de l'âge de 16 ans pour les faire venir à partir du moment où est-ce qu'elles ont atteint leur majorité, donc à 18 ans. Donc, M. Plamondon présente ses recrues comme de jeunes femmes désœuvrées sans perspective d'avenir. Il leur rendrait donc service parce que, selon ses dires, à 18 ans, elles se retrouveraient à la rue.
Hey, c'est fin, ça.
Mais
hein?
C'est d'une générosité incroyable. Tout ça, évidemment, quand il est question de gros sous, hein, c'est pas long qu'on évacue plein de choses, dont, en fait, le fait que dans une économie mondialisée qui fonctionne principalement grâce à une extrême mobilité de la main-d'œuvre, le travail est traversé par des lignes de faille qui hiérarchisent les fonctions, c'est-à-dire les rapports nord-sud, divisions sexuelles, les divisions raciales font que des personnes se retrouvent au top de la hiérarchie, et alors que d'autres sont confinés à des tâches qui sont soit dévalorisées, qui sont soit payées, donc exploitées. D'autant en plus que les métiers, dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire au niveau des soins à domicile, d'autant que les métiers qui relèvent du care ou des soins sont genrés et racialisés, puisque la très grande majorité des personnes qui exercent ces fonctions-là ou qui prodiguent ces soins-là sont des femmes migrantes ou des femmes de couleur. C'est important aussi, quand on parle de ce cas-là, de ramener à la mémoire un peu comment les aides familiales résidentes ou les aides familiales ici peuvent rentrer au pays. Jusqu'en 2014, les aides familiales migrantes étaient admises en vertu du programme des aides familiales résidentes. En théorie, après 24 mois à temps plein au service d'une famille, elle pouvait déposer une demande de résidence permanente. Maintenant, ce programme-là n'existe plus. Il a été inclus au sein du programme des travailleurs, travailleuses étrangers temporaires, qui prive en fait donc les aides familiales de l'accès qu'elles avaient à la résidence permanente puis dont elles pouvaient se prévaloir auparavant, parce que selon le programme de travailleurs étrangers temporaires, le mot le dit, c'est temporaire.
Ouais.
Donc, tu restes pas ici, tu t'en retournes. C'est sûr que dans ce domaine-là, c'est beaucoup... on a beaucoup entendu parler des travailleurs agricoles.
Ouais.
Mais les aides familiales qui font soit du ménage, prendre soin des personnes âgées, d'enfants, de personnes avec qui vivent en situation de handicap. Donc la plupart vont donc demeurer temporaires, donc extrêmement précaires, parce que évidemment en étant temporaire, t'as pas accès à plein de droits ou à plein de services aussi ici. Ensuite, l'autre problème qui existait déjà sous l'ancien programme des aides familiales résidentes, mais qui existe encore maintenant avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est que le permis de travail est nominatif, c'est-à-dire qu'il est lié à un employeur en particulier. Donc, quand le travailleur ou la travailleuse vient ici, c'est sur la base d'un contrat qui a été signé avec un employeur. Donc, elle est liée à cet employeur-là. Si jamais le travailleur ou la travailleuse subit des abus de tout ordre et veut changer d'employeur, ben là, ça complique les choses parce qu'elle doit faire une nouvelle demande avec un nouvel employeur et ça peut prendre du temps. Et donc, la personne se retrouve aussi donc sans salaire pendant ce temps-là. Donc, on évacue complètement dans toute cette histoire-là avec M. Plamondon et l'idée là, de cette... c'est plutôt ça qui est le bar ouvert, en fait. Ça, c'est un peu un bar ouvert à l'exploitation. Là. Donc, ça évacue complètement les rapports de domination structurelle qui sont inhérents à un système capitaliste qui bénéficie directement d'un bassin de main-d'œuvre qui est bon marché, qui est captive, qui est malléable puis qui est jetable après usage. Ça fait que c'est une espèce de solution, c'est une espèce de truc là, déguisé. T'sais, l'entreprise de M. Plamondon, là, qui est déguisée en solution miracle, en fait, devrait plutôt s'appeler Exploitation sans frontières plutôt que Travailleurs sans frontières. Alors, ça clôt pour l'instant ma section jambon de l'immigration.
Les prix jambon hebdomadaires.
Mais j'ai quand même... je me suis dit, bon, ça prend toujours au moins une bonne nouvelle parce que là... Sinon, la déprime s'installe rapidement. Mathieu, il y a trois... À la mi... quand Mathieu a fait sa chronique, c'était à la mi-février, il vous parlait du rôle du Canada, puis on vous en a parlé souvent, de toute façon, aussi à la chronique des apatrides anonymes, du rôle du Canada dans la torture de ressortissants canadiens à l'étranger. Notamment, trois cas en particulier, trois Canadiens qui ont été... torturés en Syrie, Abdullah Al-Maki, Ahmad Abou El-Mati et Mouyed Nourdine. Ils avaient... leur torture et leur détention en Syrie avaient lieu entre 2001 et 2004. Ils avaient... ils ont poursuivi le gouvernement canadien pour leur traitement. Donc, ça fait longtemps que ça dure. En 2008, donc ça fait déjà comme presque 10 ans, l'ex-juge de la Cour suprême, Frank Iacobucci, avait étudié cette affaire-là puis avait conclu que les actions des autorités canadiennes avaient indirectement contribué à la torture de ces trois Canadiens-là. La GRC avait même fourni des questions aux tortionnaires syriens. Donc, finalement, bonne nouvelle. Le gouvernement fédéral a présenté des excuses officielle, c'est bon, après toutes ces années. Et il va offrir des compensations financières aux trois hommes. Compensations financières qui vont rester confidentielles quand même. Évidemment. Mais bon, c'est vraiment pour eux un cauchemar, pour eux et leur famille un cauchemar. Enfin,
ça va au moins leur permettre
de tourner la page parce qu'il y a une reconnaissance officielle de ce qu'ils ont vécu puis du rôle que les autorités canadiennes ont eu dans ce qui leur est arrivé. Puis juste en terminant, je voudrais juste vous annoncer un événement du Centre des travailleurs, travailleuses immigrantes qui organise le 30 mars, jeudi le 30 mars, donc deux fois dans la même journée, de 11h à 13h et de 17h à 19h, une discussion communautaire et session d'information pour les résidents et résidentes de Parc Extension sur la lutte pour le salaire minimum à 15$. Donc, ça fait un peu un parallèle... avec mon jambon de l'exploitation de tout à l'heure. Donc, si ça vous intéresse, il va y avoir de la bouffe gratuite. Bienvenue aux familles aussi, il va y avoir un service de garde. Donc, 30 mars, 11h à 13h et de 17h à 19h, c'est au Centre des travailleurs, travailleuses immigrantes. Organisé par le Centre des travailleurs, travailleuses immigrantes, vous pouvez aller sur leur site web pour connaître l'adresse exacte. Et
super. Super important aussi, le Parkex, là, ils ont quand même un pourcentage très important là, de manque de travail. Là. Fait que ils sont sous-payés. Là. Je pense que c'est rendu autour de...
C'est 32, selon les chiffres. Selon les chiffres actuels, dans Parkex, c'est 32% des travailleurs travailleuses qui sont sous le seuil de la pauvreté. Donc, quand on sait qu'il y a des PDG canadiens qui gagnent 206 fois plus que le salaire moyen d'une travailleur travailleuse, c'est...
C'est fou.
Voilà.
Bon, mais excellent. Ben, une chronique excellente. On finit quand même avec une moindrement bonne nouvelle quand même. Un gros merci, Marielle.
Ben, de rien. C'est toujours un plaisir de venir en profondeur sur les ondes de CKUT.